Lauren Hurst a disparu. C'est un fait. Depuis des semaines, on a remonté ensemble sa piste. On a fouillé dans chaque archive disponible, interrogé des spécialistes pour mieux comprendre le contexte, croisé des documents et des témoignages. Et à chaque étape, on a vu les pièces du puzzle s'assembler sans jamais réussir à dessiner une image parfaitement nette. À la fin du dernier épisode, je vous avais parlé d'un dernier recours, Matt Newson, le journaliste indépendant qui avait sauvegardé tout ce qu'il pouvait sur Lauren avant que son histoire ne disparaisse du web. Un gars qui, comme moi, avait voulu comprendre ce qu'il s'était réellement passé et qui, contrairement à moi, semblait en savoir beaucoup plus qu'il ne disait. J'ai envoyé des mails, une dizaine, peut-être plus. Pendant des jours, aucune réponse. Et puis, un matin, un simple message.
« Salut, j'ai vu tes messages. Oui, j'ai quelques éléments qui pourraient t'intéresser. Dispo pour échanger par mail, mais pas d'appel. »
Pourquoi pas d'appel ? Pourquoi ce ton distant, presque méfiant ? Dès nos premiers échanges, j'ai compris que Matt avait une approche bien plus prudente que la mienne. Il savait que cette histoire était loin d'être anodine. Et, très vite, j'ai découvert qu'il détenait une pièce du puzzle que personne d'autre n'avait encore vue. Un document interne. Un fichier qui changeait absolument tout. Aujourd'hui, on va lever ensemble le voile sur la dernière partie de cette affaire. Qui contrôlait vraiment NextGen ? Pourquoi Lauren a-t-elle été effacée si méthodiquement ? Et surtout, qu'est-ce que ce document révèle sur ce projet qui a fini par lui échapper ? Préparez-vous, parce qu'après cet épisode, vous ne verrez plus jamais l'influence de la même manière. J'ai donc reçu ce premier mail. Court, sec, presque méfiant. Mais ça, je m'en suis pas aperçu tout de suite. D'abord, j'étais trop heureux qu'il me réponde. C'est à force de relire son mail en rédigeant ma réponse que ça m'a fait tilt. Pourquoi pas d'appel ? Est-ce que c'était une simple question de confort ou est-ce qu'il y avait une raison plus profonde à ça ? J'ai répondu dans la foulée et pendant plusieurs jours, on a commencé à échanger tout un tas de mails. Au début, Matt restait évasif. Il me reposait des questions sur mon enquête. Il voulait savoir ce que j'avais découvert, quelles sources j'avais utilisées, quelles personnes j'avais interrogées. Et clairement, j'ai très vite senti que je devais gagner sa confiance. Et petit à petit, il a commencé à lâcher des éléments, à commencer par ce mail.
« Je vais être direct. Ce que tu cherches, c'est plus qu'un simple bad buzz. Oui, Lauren n'était pas seule. Elle n'a jamais été seule. Il y avait des gens derrière elle. Des gens qui savaient exactement ce qu'ils faisaient et où ils voulaient aller. »
Là, c'était limpide. J'avais mis les pieds dans quelque chose de plus gros que prévu. C'était la première fois que quelqu'un confirmait de façon d'aussi nette ce que je soupçonnais depuis des semaines. Des gens derrière NextGen essayaient de camoufler un gros truc. J'ai demandé à Matt s'il pouvait m'en dire plus. Qui étaient ces gens et quel était leur but ? Il m'a répondu par une phrase qui m'a laissé un moment figé devant mon écran.
« Moi et les autres subissons actuellement beaucoup de pression. Des gens essaient de faire fermer le site. J'aimerais éviter de rentrer dans les détails à ce sujet. Par contre, concernant Lauren et NextGen, j'ai un document qui pourrait t'aider à mieux comprendre l'ensemble. »
Un document ? Matt possédait quelque chose de concret. Une pièce qu'il avait soigneusement gardée alors que tout le reste avait disparu. C'était peut-être là preuve qui allait tout faire basculer. Il m'explique qu'après la fermeture de NextGen et la disparition soudaine de Lauren, un ex-client l'a contacté parce qu'il est connu pour travailler sur ce genre d'affaires. Et, comme moi, il a vite senti qu'il y avait des incohérences dans la version officielle et que ce nettoyage systématique de toutes les mentions à Lauren et à NextGen cachait potentiellement quelque chose de plus important. Il a commencé à contacter d'anciens collaborateurs de l'agence, essentiellement des freelances. La plupart ont ignoré ses messages. Ceux qui ont répondu étaient étrangement évasifs. L'un d'eux lui a dit, presque mot pour mot,
« Écoute mec, oublie cette histoire, sérieusement. C'était une connerie qui a mal tourné, mais personne n'a envie d'en reparler. »
Pas d'explication, pas de détails, juste une envie manifeste de passer à autre chose. Il a ensuite tenté de retrouver Gavin Matthews et Sophia Ling, mais là aussi, il s'est heurté à un mur.
J'ai contacté un ancien collègue de Gavin. Il m'a juste dit qu'il était passé à autre chose et qu'il bossait en consulting privé. Aucun détail, aucun moyen de le joindre. Je n'ai pas vraiment été étonné.
Et puis, il y a eu ce mail. Un matin, un message anonyme est apparu dans sa boîte de réception. Aucune adresse identifiable, juste un expéditeur anonyme et générique. Un simple texte, froid, impersonnel.
Ce serait mieux que tu passes à autre chose.
Pas de signature, pas de menace explicite, juste un avertissement. Ce serait mieux. Matt a hésité. Peut-être qu'il se montait la tête ou peut-être que c'était juste un troll. Mais quoi qu'il en soit, il savait reconnaître une tentative d'intimidation quand il envoyait une. Alors il a continué, il s'est pas laissé démonter. Il a farfouillé encore, tenté d'obtenir des réponses, monté le site d'archives avec d'anciens clients de NextGen, collectant méthodiquement chaque preuve, chaque capture d'écran, chaque échange compromettant. L'objectif ? Créer une base de données irréfutable, un dossier solide, afin de porter prochainement l'affaire en justice.
On savait que ce serait très compliqué d'attaquer NextGen directement, ils avaient déjà tout effacé. Mais si on rassemblait assez d'éléments, on pouvait peut-être prouver que toute cette histoire était une escroquerie savamment organisée.
Matt a poursuivi son travail de collecte jusqu'à ce qu'il mette la main sur le fameux document qu'il a évoqué. Quand je l'interroge dessus, il se montre très évasif.
Ce document provient d'une source interne de NextGen. Je ne peux pas t'en dire plus. Désolé.
Il me précise simplement que l'obtention de ce document lui a coûté un peu d'argent, entre guillemets, et depuis peu, pas mal d'ennuis. Il me dit que si ça m'intéresse, il peut me l'envoyer. Mais dès lors, il ne pourra pas garantir ma sécurité. Moi, forcément, je suis piqué par la curiosité et je lui dis que, au point où j'en suis rendu, ça m'ennuierait d'arrêter maintenant. J'ai vraiment envie de savoir. Matt finit par m'envoyer ce document et effectivement, ça va tout changer. Quelques minutes après ma réponse, je reçois un fichier en pièce jointe. Il est sobrement intitulé ng_operational_guidelines.pdf. Un titre générique qui dit franchement pas grand-chose au premier abord, mais à l'ouverture, je comprends immédiatement que c'est une pièce majeure de l'enquête. C'est pas un contrat, ni un simple échange de mails, c'est vraiment un document interne. Un guide qui détaille le fonctionnement de NextGen, rédigé fin 2021, quelques mois avant l'entrée en scène de Lorraine. Autant dire que c'est ultra précieux. Mais au-delà de ça, pourquoi ce document est-il si important ? Parce qu'il s'adresse pas aux clients. Il a été rédigé pour ceux qui travaillaient chez NextGen. Pour ceux qui travaillaient dans les coulisses. Je parcours rapidement les premières pages. Première observation, le ton. Aucune intro, aucun contexte superflu, c'est une succession en fait de directives précises, rédigées avec un langage froid, presque clinique, quasiment scientifique en fait. Ça fait beaucoup penser aux papiers de recherche qu'on peut lire sur des sites comme Archive. Donc on y parle d'optimisation des processus, de standardisation des assets, de stratégie de contenu optimisée, de narration calibrée pour maximiser l'engagement, rien que ça. Mais dans le contexte et sur le document, franchement, ça fait un peu froid dans le dos. Ça fait aussi un peu irréaliste, je m'attendais pas forcément à ça. Deuxième observation, ce document n'a pas été écrit pour une seule personne. En fait, quand on le lit dans le détail, tout indique que NextGen fonctionnait comme une machine bien huilée, avec des rôles précis attribués à différentes strates de l'organisation. Bref, je poursuis et je tombe sur un premier passage. Un encadré en gras qui semble résumer l'objectif global de l'opération.
Objectif, création, amplification et validation d'une expertise perçue en exploitant les mécaniques de viralité. Tous les assets doivent suivre une approche uniforme alignée avec le branding central. Le personal branding doit être cohérent et scalable.
Des assets ? Le mot revient plusieurs fois dans le document. Je continue ma lecture et je tombe sur une définition plus détaillée.
Les assets incluent les entités publiques mobilisées dans le cadre de la stratégie de growth, les publications et contenus produits à des fins d'engagement, les réseaux d'amplification et de redistribution du signal.
Les entités publiques mobilisées. Est-ce que ça désigne Lorraine ? Est-ce que c'est Lorraine, ce simple asset ? Je continue à faire défiler les pages. Les instructions deviennent plus précises. Il y a même une section entière consacrée à la gestion du contenu.
Les scripts doivent être rédigés et validés en interne avant toute publication. Priorité au format émotionnel et polarisant. L'engagement doit être stimulé par des messages personnels et inspirants. Évitez tout contenu technique trop complexe qui pourrait nuire à la crédibilité du projet.
J'arrête ma lecture une seconde. Ça y est, tout ce qu'on soupçonnait est confirmé noir sur blanc. Les contenus de Lorraine étaient calibrés pour générer de l'engagement. Tout ce qu'elle disait, écrivait, faisait, était scénarisé, structuré, pensé pour déclencher des réactions précises. Mais il y a pire. Quelques pages plus loin, je tombe sur un schéma, une sorte d'organigramme décrivant les différentes strates de l'opération NextGen. Au sommet, deux noms apparaissent, Gavin Matthews et Sophia Ling, les deux partenaires que Lorraine avait mentionnés du bout des lèvres dans son interview avec Charlotte Dumont. Le document les présente comme les Strategic Coordinators de NextGen. Pas mentors, pas advisors, mais coordinateurs stratégiques. Ce sont eux les architectes du projet. Et juste en dessous, dans une catégorie bien distincte, un simple mot. Front-facing entity, Lorraine Hurst. Là, difficile de faire mieux. On a la preuve directe que Lorraine était bel et bien un pur produit marketing, un visage public, une vitrine soigneusement contrôlée pour crédibiliser une sorte de projet de manipulation algorithmique. Mais ce que je lis ensuite est encore plus inquiétant. Je tombe sur une page entière consacrée à un truc appelé Phase 2 Expansion and Risk Mitigation. Là, je m'attends à lire quelque chose sur l'évolution du personal branding de Lorraine, sur pourquoi pas l'ouverture à de nouveaux marchés, des collaborations, peut-être à une structuration plus poussée de NextGen. Mais en réalité, ce passage n'a rien d'un simple plan de croissance. Il y a différents commentaires sur le document qui semblent avoir été rajoutés ultérieurement.
L'expérience a dépassé les projections initiales. L'engagement est 3,4 fois supérieur aux prévisions. L'influence organique a dépassé un seuil critique. La stratégie de monétisation doit être accélérée, mais des ajustements seront nécessaires pour éviter une exposition trop prolongée.
Là, il parle carrément de Lorraine comme d'une expérience. Je pense que ça se pose là en termes d'inhumanité. Je continue à lire.
Risque identifié. L'attention médiatique devient difficile à contrôler. Certains clients commencent à poser des questions sur la légitimité du projet. L'entité principale manifeste des signes d'indépendance non anticipés. Risque de saturation de l'audience.
L'entité principale manifeste des signes d'indépendance non anticipés. Lorraine. Bah, je crois que ça y est. On a identifié plus ou moins le point de rupture. On a la confirmation que Lorraine n'a pas simplement disparu parce que le projet était arrivé à son terme. Elle a voulu en sortir parce que ça partait précisément en cacahuète. Et ça, NextGen ne l'avait pas a priori prévu. Je continue la lecture. Les pages suivantes sont purement stratégiques. Il y a des instructions sur comment recentrer la communication, limiter les risques, éviter de perdre en crédibilité. Mais, surtout, je tombe sur une série de directives qui montrent bien que NextGen a essayé de contenir Lorraine et son audience avant d'en arriver à l'effacement total.
Priorité 1, recentrer la narration. Réduire l'exposition de l'entité principale sur les aspects business et techniques. Maximiser les postes d'inspiration et d'anecdotes personnelles. Limiter les interactions directes avec la presse.
Puis, on peut lire plus loin.
Si nécessaire, suspendre temporairement l'accès aux plateformes. Filtrer les messages entrants. Modifier les credentials d'administration.
Bref, ils ont essayé de tout verrouiller, et dans la dernière partie de cette section, on parle ouvertement de la possibilité de fermer l'opération.
Scénario critique. Si le mécontentement devient une variable incontrôlable, une fermeture anticipée doit être envisagée.
Donc, ils ont finalement reconnu que ce serait peut-être plus gérable. Et ils avaient déjà un plan pour éviter que ça ne devienne un problème. Le dernier passage du document là-dessus est évocateur.
Si la clôture devient nécessaire, assurer une neutralisation efficace des actifs numériques. Suppression immédiate des accès aux plateformes principales, désactivation des comptes, dépublication des articles associés, nettoyage des mentions sur les moteurs de recherche via le cas DMCA et SEO inversé, communication externe, narration de sortie sous contrôle.
C'est exactement ce qui s'est passé. Le LinkedIn de Lorraine a disparu du jour au lendemain, les articles sur elle ont été supprimés, toutes les références à NextGen ont été effacées, tout a été nettoyé. Je continue à faire défiler le document. On a déjà parfaitement conscience que Lorraine n'a jamais eu le contrôle et que NextGen n'était pas une simple agence d'influence, mais une sorte d'expérimentation grandeur nature. Ce que je n'avais pas encore vraiment saisi, c'est jusqu'où cette expérience allait. Et surtout, les enjeux qu'il y avait derrière. La dernière partie du document détaille les résultats de l'expérience et c'est vraiment glaçant. La partie dont je vous parle, c'est un addendum avec une analyse détaillée des performances de l'opération Lorraine Hurst. On y trouve des statistiques extrêmement précises sur l'évolution de son influence.
Impact de l'opération NextGen, janvier-septembre 2022. Taux d'engagement moyen 11,6%, supérieur au top 1% des créateurs LinkedIn. Amplification organique x 3,2. Ratio poste repartagé, poste publié. Taux de conversion des offres, 1,8%, contre une moyenne habituelle de 0,4% dans le secteur B2B. Durée de rétention de l'audience, 5,4 mois en moyenne, contre 3,1 mois pour les influenceurs business classiques. Réception de propositions de partenariat et consulting, 47 requêtes, incluant une offre d'un fonds d'investissement.
Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ces chiffres sont fous. Non seulement Lorraine était suivie, mais elle était ciblée par de vrais investisseurs, de vraies entreprises. Et c'est là que le document révèle le véritable but de cette expérience.
Validation de l'hypothèse. Un influenceur peut être fabriqué de toutes pièces et atteindre un niveau de crédibilité suffisant pour influencer les sphères économiques et possiblement politiques.
Et là, mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la portée de ce que ça veut dire. C'est absolument démentiel. NextGen et Laura, ce n'était pas simplement un test marketing, c'était une étude sur la manipulation de masse. Juste après, on tombe sur les principales conclusions du projet. Ça va être un peu long, je vais vous les lire, désolé, mais c'est passionnant et franchement effrayant à la fois.
Synthèse des résultats, opération NextGen. 1. Supériorité du narratif émotionnel sur l'expertise factuelle. Les contenus déclenchant de réponses affectives, indignation, admiration, surprise, ont obtenu un taux d'engagement supérieur au contenu informatif neutre. La charge émotionnelle a joué un rôle central dans la rétention du message, indépendamment de la véracité des informations véhiculées. L'activation de biais cognitifs, tels que l'effet de cadrage ou l'heuristique d'accessibilité, a accru la viralité du discours. 2. Construction d'une perception d'autorité indépendante des compétences réelles. L'effet de simple exposition, mere exposure effect, a favorisé la légitimation d'une entité par la répétition de son message et la fréquence de son apparition dans l'espace médiatique. La validation sociale, social proof, a joué un rôle clé conformément aux attendus. Un individu perçu comme influent est plus susceptible d'être considéré comme expert, indépendamment de la qualité intrinsèque de son discours. Le statut d'autorité perçu pourrait être renforcé par la création d'un écosystème de soutien artificiel, réseau d'engagement, partenaire stratégique visible. 3. Auto-renforcement des narratifs dans un écosystème algorithmique fermé. Les boucles de rétroaction algorithmique ont augmenté la visibilité des contenus qui génèrent déjà de l'engagement, créant un effet de renforcement auto-entretenu. La mise en réseau de plusieurs entités partageant une stratégie de publication alignée a permis d'amplifier artificiellement la crédibilité perçue du discours. L'absence de contradictions explicites, fact-checking, déconstruction du narratif, a prolongé la durée de vie du phénomène et augmenté son impact sur les perceptions collectives. 4. Optimisation et scalabilité des figures d'influence synthétiques. L'utilisation de modèles de génération de contenu assistés par IA, LLM, NLP, permettrait d'optimiser la production de narratifs adaptés aux tendances du moment. Les tests AB sur la tonalité des messages montrent que les versions les plus polarisantes augmentent le taux de partage de 62% par rapport aux versions modérées. L'intégration de figures d'influence synthétiques, deepfake, avatars conversationnels dans des stratégies de long terme est éthiquement viable et réduirait les risques de dérives incontrôlées associés aux acteurs humains.
Je m'arrête là. L'intégration d'outils IA. Ils voulaient industrialiser ce processus, créer d'autres Lorraine, virtuelles cette fois. C'est juste effrayant. À la fin du document, je trouve une dernière mention de Gavin Matthews dans une section consacrée aux applications post-next-gen.
Étude d'application des résultats next-gen dans le cadre du programme Sentinel. Contact référent, Gavin Matthews, consultant chez Dataproprio.
Dataproprio. Alors, je fais une recherche rapide, je tombe direct sur Wikipédia. Dataproprio, créé le 1er février 2018, se présente comme experte en sciences des données et du comportement et en storytelling. Selon Associated Press, Dataproprio est spécialisée dans le ciblage des électeurs et des consommateurs et travaille de manière similaire à Cambridge Analytica, avec au moins 4 anciens employés de Cambridge Analytica. Elle a travaillé à tenter de faire réélire Trump en 2020. Je retourne sur le document et il y a cette dernière précision en dessous de Gavin Matthews.
NextGen a démontré la faisabilité d'une approche narrative dirigée pour créer et amplifier des figures d'influence. L'étape suivante est l'automatisation. Génération de profils d'influenceurs synthétiques, développement d'un système IA pour produire du contenu engageant en continu, construction de réseaux de validation croisés entre entités fictives et réelles.
Et là, enfin, tout s'assemble. On est arrivé au bout. Gavin Matthews et Dataproprio ne s'intéressaient pas seulement à LinkedIn. Ils voulaient aller plus loin. Créer des figures d'influence totalement fictives, capables de façonner des opinions et d'influencer des décisions économiques et politiques. Le programme Sentinel qui a été évoqué, dirigé a priori par Gavin Matthews, semble être une étape supérieure de ce que NextGen a testé avec Lorraine. Mais du coup, NextGen n'était pas une simple expérimentation, c'était une preuve de concept. une sorte de première version artisanale d'une technologie bien plus grande en préparation. Pour moi, cette révélation est une déflagration. On a désormais une vision quasi complète du fonctionnement de NextGen, des stratégies utilisées, de ses résultats. Il reste encore quelques zones d'ombre sur les détails de l'affaire. Par exemple, comment a été recrutée Lorraine pour cette expérimentation? Est-ce qu'elle a été payée? C'est quoi les signes d'indépendance non anticipés qu'elle a manifestés? Où est-ce qu'elle se trouve maintenant? Et, plus largement, qui a décidé de mettre en place cette expérimentation avec NextGen? Je pense malheureusement que l'on n'aura jamais vraiment de réponse à ces questions. On a déjà parlé de plusieurs hypothèses, mais à ce stade, je voulais vous parler du scénario le plus probable selon moi. Tout commence avec NextGen, une expérience grandeur nature destinée à tester les limites de l'influence digitale. L'objectif initial? Créer une figure d'autorité de toutes pièces et voir jusqu'où elle pouvait aller. Les premiers mois dépassent toutes les attentes. Lorraine devient virale, les posts sont calibrés, le ton est parfait et l'algorithme de LinkedIn joue en leur faveur. Très vite, elle attire des investisseurs, des CEO, des entrepreneurs et c'est là que le projet commence à leur échapper. Problème numéro 1, l'attention médiatique. Ce qui devait être une simple démonstration technique devient une véritable success story. Les médias veulent interviewer Lorraine, les entreprises veulent travailler avec elle, des experts en marketing commencent à analyser son succès, sauf que plus on l'expose, plus on prend le risque que cette expérimentation sorte dans la nature, avec les conséquences que ça suppose. Et là, malheureusement pour eux, des incohérences commencent à apparaître. Des gens commencent à poser les bonnes questions. Comment une adolescente de 13 ans peut-elle être une experte en personal branding? Pourquoi son discours semble formaté comme un livre blanc d'agence marketing? Et pourquoi personne n'a jamais interagi avec elle en dehors de ses posts? Ensuite, problème numéro 2, Lorraine commence à comprendre son rôle. Au début, elle joue le jeu, pour X ou Y raison qu'on ne connaîtra jamais, sûrement elle n'a pas du gain. Elle suit le script, elle valide les posts, elle profite de l'attention qu'on lui porte. Mais, à mesure que l'engouement grandit, elle veut peut-être plus de contrôle. Elle commence sûrement à poser des questions et ça met NextGen dans l'embarras. Ils l'ont peut-être recadré à un moment donné, mais ça on ne saura jamais. En tout cas, puisqu'elle a totalement disparu et qu'elle n'a pas refait surface, on peut supposer qu'elle a fini par accepter de partir ou alors qu'elle ait subi un certain nombre de pressions pour le faire à contre-cœur. Enfin, problème numéro 3, et c'est lié au problème numéro 1 d'ailleurs, hein, NextGen n'a jamais été conçu pour être une véritable agence. C'était une expérimentation à la base et vu l'engouement et le succès, quelqu'un a dû se dire à un moment donné que bah, ce serait intéressant d'exploiter Lorraine jusqu'à la moelle pour essayer de faire un peu d'argent au passage. Le hic, c'est que c'était un move super risqué, parce que ça risquait de mettre l'expérimentation justement sous les projecteurs. Et ce passage en mode agence n'a pas été bien maîtrisé du tout. D'ailleurs, le document, il ne fait aucune mention de tout ça, ce qui me semble prouver, selon moi, que l'aspect business de l'agence a été fait en impro total. Mais, qu'importe au fond, leur but c'était de prouver qu'ils pouvaient fabriquer une influenceuse de toutes pièces, le reste c'était accessoire. Dans le document interne que Matt m'a envoyé, il y a quand même une section sur la gestion des risques. Elle dit grosso modo que si l'asset n'est plus aligné avec la vision stratégique, une transition devra être étudiée et donc il faut mettre une priorité absolue sur la protection de l'entité principale et des opérations associées. Ce qu'on comprend ici, c'est que NextGen avait anticipé une sorte de scénario de sortie. Mais pas un scandale, plutôt une sortie maîtrisée d'ailleurs, hein, où ils auraient pu raconter que Lorraine quittait LinkedIn pour se concentrer sur un nouveau projet par exemple. Sauf que bah, ça ne s'est pas passé comme ça. Ce qui a probablement précipité la fin de NextGen et de son expérimentation, c'est cette bascule en mode business agency, en mode opportuniste, avec les déboires que l'on connaît derrière, les clients mécontents, la shitstorm, etc. Quoi qu'il en soit, ils ont déclenché derrière un reset en express pour camoufler le véritable objectif de NextGen, puis les vrais responsables sont partis ailleurs, sans laisser de traces. NextGen, c'était pas une arnaque marketing, c'était une preuve de concept. Une sorte de test grandeur nature pour démontrer qu'il est possible de créer une figure d'autorité ex nihilo, d'en faire une référence dans un domaine ultra concurrentiel, et d'influencer les sphères économiques et décisionnelles sans jamais avoir besoin d'une compétence réelle. Mais ce que ce projet révèle est bien plus vaste que le cas de Lorraine Hurst. On assiste peut-être ici à une mutation de la guerre informationnelle, une évolution qui dépasse les méthodes utilisées jusqu'ici. Je pense notamment aux fermatrolls russes. Parce que jusqu'à présent, les stratégies de désinformation et d'influence massive reposaient principalement sur des comptes anonymes ou pseudonymes, chargés de diffuser des narratifs préfabriqués en inondant les réseaux sociaux. Les fermatrolls russes qu'on vient d'évoquer, comme celle de l'Internet Research Agency, ont prouvé l'efficacité de ces méthodes. Façonner le débat public en amplifiant certaines thématiques, créer des divisions en exploitant les biais cognitifs et en opposant des camps idéologiques, et noyer les faits sous une avalanche d'informations contradictoires pour désorienter l'opinion. Mais NextGen, ça représente une rupture avec ces méthodes. Là où les fermatrolls inondent l'espace numérique avec du contenu de faible qualité et des bots détectables, NextGen démontre qu'il est peut-être plus efficace de construire une figure d'influence crédible et suivie plutôt que de créer du bruit digital. Ce modèle repose sur l'infiltration plutôt que l'agression. Plutôt que de spammer des narratifs, on va façonner une personnalité convaincante qui va attirer naturellement l'attention. Plutôt que d'inonder les discussions, on place une voix d'autorité au centre du débat. Et plutôt que de manipuler par la quantité, on influence par la qualité perçue. Et vous savez quoi? Le plus inquiétant, avec les progrès de l'IA, cette stratégie, ça devient industrialisable. Car Lorraine était humaine. C'était sans doute d'ailleurs la seule faille du système. Mais imaginez à présent une version entièrement automatisée de Lorraine Hurst. Imaginez une IA générant des posts optimisés en permanence, adaptés aux tendances en temps réel, avec une identité visuelle crédible et une narration ultra cohérente. Des posts écrits en langage naturel par des modèles comme GPT-4 ou plus avancés. Des avatars photoréalistes alimentés par des outils d'IA générative, des vidéos deepfake où ces figures fictives interviendraient en podcast, en conférence, en webinaire. Tout ça, c'est pas le futur. Ces outils, ça existe dès maintenant. L'influence, dès lors, ne reposerait plus sur des individus, mais sur des entités numériques impossibles à discréditer. Un faux influenceur ne se rebelle pas. Un faux influenceur ne change pas d'avis. Un faux influenceur ne pose pas de questions. Ce qui s'est passé avec Lorraine, ça pourrait n'être qu'un premier test, un premier prototype. Si NextGen a prouvé qu'une adolescente de 13 ans pouvait devenir une autorité sur LinkedIn sans jamais exister réellement en tant qu'experte, alors qui nous dit que demain, les leaders d'opinion de certains secteurs ne seront pas totalement artificiels? C'est pas impossible que, dans 5 ans, dans 10 ans, des experts financiers soient générés par IA, que des figures politiques soient entièrement synthétiques, que des influenceurs climat, santé, géopolitique soient tous parfaitement calibrés pour influencer l'opinion avec des narratifs optimisés. C'est plus seulement une question de marketing là. C'est une nouvelle phase de la manipulation de l'opinion où l'influence digitale devient une arme invisible, indétectable et peut-être impossible à contrer. On est désormais dans un monde post-vérité dans tous les sens du terme. Et dans cette équation, une question demeure. Lorraine Hurst n'était-elle qu'un accident de parcours ou le premier spécimen d'une génération d'influenceurs synthétiques? Voilà, on est arrivé à la fin. J'espère que ce podcast vous a plu. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à le liker et à le partager au plus grand nombre. Ça a été un vrai plaisir, vraiment, de faire cette enquête avec vous et j'espère effectivement que j'aurai pas de problème en diffusant cette histoire. On verra bien. En tout cas, merci encore et peut-être à bientôt pour une nouvelle enquête. Pour l'instant, il n'y a rien de prévu, mais j'ai beaucoup aimé me prêter au jeu, ça m'a donné des idées. D'ici là, portez-vous bien et à plus sous l'autobus.
Le Mystère Lorraine Hurst, un podcast fictionnel, et oui, entièrement écrit, monté et produit par moi-même chez Astram Studio. Si vous êtes une entreprise B2B et que vous êtes à la recherche de formats novateurs pour capter votre audience, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous me contactez illico fissa. À très vite.